Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Le week-end se termine en douceur et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve ce soir encore sur cette libre antenne, ensemble pour échanger, partager des moments de vie, des peines, des joies, des questionnements. Tous les sujets qui vous intéressent et vous concernent sont les bienvenus. Nous avons parlé régulièrement d'addiction, nous pouvons aussi parler de poids, comprendre ensemble si ce que vous portez n'est pas plutôt le poids de quelque chose ou de quelqu'un. Nous pouvons parler de vos phobies qui vous font grimper sur la table à la moindre souris, ou vous persuade que vous allez mourir sur place si vous restez coincé dans un ascenseur. Nous pouvons aussi aborder vos difficultés à faire un bébé ou encore ce fichu manque de confiance qui vous coupe les pattes à chaque fois que vous aimeriez prendre de l'élan. De tout ça et de bien plus encore, nous pouvons parler ce soir sur cette libre antenne. Pour passer à l'antenne et amorcer cette conversation, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 39 21. Vous savez que tout au long de l'émission, vous pouvez aussi réagir à ce qui se dit à l'antenne en envoyant un SMS au 7 39 21 et en pensant bien à commencer par le mot « nuit ». Enfin, par mail, le mail de la Libre Antenne, c'est tout simplement libreantenne@europe1.fr. Voilà, vous savez tout, presque. Ce soir, à la réalisation, notre chef d'orchestre s'appelle Fabrice Fougerouze. Et comme tous les week-ends, Hassan et Oscar sont dans les starting blocks pour recevoir vos appels au 3921. Enfin, avant de commencer cette émission, j'aimerais juste vous lire cette citation pour qu'elle vous inspire ce soir. « Nul besoin d'être parfait pour inspirer les autres. Laissez plutôt les gens s'inspirer de la manière dont vous gérez vos imperfections. »
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Vincent. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci, c'est gentil. Alors, bravo pour cette citation.
Ah oui, j'aime beaucoup. quelle est la raison de votre appel alors Vincent?
Alors en fait, je vous appelle parce que je suis en train de vivre quelque chose en ce moment qui est assez problématique, qui me bouffe un petit peu la vie. Je viens d'emménager il y a 2 mois dans un nouveau département.
Oui.
J'ai trouvé une maison et dans cette maison, il fallait absolument que je trouve un colocataire parce que je pouvais pas gérer tout seul cette maison d'un point de vue financier.
Okay.
Et j'ai trouvé un colocataire qui lui aussi a changé de département pour s'installer ici. Et cette personne est sous curatelle et ça ne se passe pas bien du tout.
Ah.
Et ouais.
Alors pourquoi sous curatelle, pour quelle raison?
Alors je pense alors cette personne est sous méthadone, hein, c'est un ancien toxicomane, et je pense que cette mise sous curatelle vient de là.
D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans les mêmes âges que vous?
Oui, on a exactement le même âge.
Ok.
Nous n'avons pas du tout. Moi, au début, je m'étais dit bon ben voilà, il est sous curatelle, donc pour payer les factures, tout ça, ça va suivre, ça va gérer, puisqu'il y a une personne qui s'en occupe de son budget. Mais la problématique qui se pose, c'est comme il a changé de département, son dossier a été transféré le 31 décembre dans ce nouveau département. Et je ne sais pas qui est la nouvelle personne qui s'occupe de lui. Et c'est un sujet qu'on n'arrive pas à aborder. Et c'est quelqu'un qui se braque, qui est assez irrespectueux, c'est vraiment très, très, très problématique. Et moi, je me retrouve dans une situation où j'ai peur pour moi. Je fais toujours attention à mes affaires. Je cache ma carte bleue, mon carnet de chèques. Je ne me sens pas en sécurité. Oui, franchement. Donc, nous avons deux beaux distinctifs. Les factures sont à mon nom. Et
attendez que je comprenne bien. Deux beaux distinctifs, c'est-à-dire normalement, c'est vous qui êtes le locataire principal. Là, vous êtes propriétaire ou locataire?
Non, je suis locataire.
Donc vous êtes locataire principal, non, même pas du tout aussi?
Non, non, non. Nous avons vraiment deux baux distinctifs, c'est-à-dire que sur nos
Même niveau, en fait.
Tout à fait.
Ah, ça, c'est vrai, c'est embêtant, ça. Enfin, oui et non, ça dépend. Oui, dites-moi.
Il m'a émis le souhait de partir, pas plus tard que la semaine dernière. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que là, je n'ai pas de date butoir. Je ne sais pas quand il va partir.
Mais en quoi ça vous concerne si justement vous avez deux beaux différents, vous n'êtes pas dépendant de lui du coup? Vous seriez dépendant si vous étiez locataire principal et que vous aviez fait un bail de sous-location avec l'accord du propriétaire?
Mais en fait, le problème, c'est que comme les factures sont à mon nom, moi, si je m'en vais, ils se retrouvent dans la panade. Puis je n'ai pas envie de quitter cette maison. Ça fait même pas 2 mois que je suis dans cette maison.
Alors attendez, on va reprendre le fil depuis le début que je comprenne bien. Déjà, oui. Est-ce que c'était un choix? Pourquoi choisir une maison que vous ne pouvez pas payer seule avec un coloc plutôt qu'un quelque chose de plus petit?
Alors,
où vous êtes seule?
Tout simplement parce que je suis arrivée dans ce département et c'est ma mère qui vivait dans cette maison avant. Donc il y avait quelque chose de... Voilà, c'était simple. Pour moi, il suffisait que j'arrive, vous comprenez? Je n'avais plus qu'à poser mes valises.
D'accord. Mais à condition, vous ne pouvez pas l'assumer financièrement seule?
Non, non.
Donc
non,
c'était quand même une prise de risque au départ.
Donc, ouais.
Qui est le bailleur officiel?
Le propriétaire, vous voulez dire?
Oui, qui vous fait signer un bail de location?
En fait, nos propriétaires, ils habitent juste en face de chez nous. On habite dans la même propriété.
D'accord, donc eux, ils ont accepté de vous louer cette maison à moitié.
Oui, oui, c'est ça.
Et pour autre moitié, à ce garçon. Et qui a choisi ce garçon, alors du coup? Comment s'est fait la première
rencontre? C'est moi. Ah. C'est moi.
Et vous l'avez trouvé où?
À la suite d'une annonce que j'ai passée.
Ouais. Et ouais. Vous aviez eu le choix entre plusieurs personnes?
Pas vraiment.
Ouais, c'était un peu...
J'ai été un petit peu pris de court et...
C'est ça.
Et puis, je voulais lui donner sa chance. Et en fait, il m'a vendu du rêve. Je voulais lui donner sa chance.
Alors, quand est-ce que les problèmes ont commencé et qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
Alors, en fait, les problèmes ont commencé. Il est arrivé donc dans le courant du mois de novembre. Il est reparti 3 semaines plus tard dans son département d'origine. Et lorsqu'il est revenu, je pense que ses anciens démons ont repris le dessus. Mmh. Et c'est depuis qu'il est revenu, en fait. Il est reparti 15 jours et depuis qu'il est revenu, c'est une catastrophe.
Qu'est-ce qui vous fait subir?
C'est quelque chose qu'il faut vivre. Il boit beaucoup d'alcool. Il prend des médicaments qui ne sont pas... qui sont en dehors des prescriptions de son médecin. J'aurais vraiment du mal à expliquer.
Non, mais vous, en quoi au quotidien ça vous pose un souci? Est-ce qu'il y a des vols? Est-ce qu'il y a des dégradations?
Alors non. Mais j'ai peur. J'ai peur. Je le vis très 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 mal.
Il vous a déjà menacé au moins verbalement?
Verbalement.
Oui.
Verbalement. Et je sais par exemple qu'il a une matraque télescopique. Rien que le fait de savoir qu'il en a une, je ne me sens pas rassurée.
Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous organisez...
Ce n'est pas de la paranoïa, parce que j'en ai parlé à ma mère cet après-midi même, et elle m'a dit que je faisais de la paranoïa, mais ce n'en est pas, il faut le vivre, en fait.
Non, on sent bien là que vous avez vraiment peur.
Oui, je me sens vraiment pas rassurée. Et le problème, c'est que je sais que les choses vont s'arranger, mais je ne sais pas comment elles vont s'arranger. Et je ne sais pas à qui m'adresser, parce qu'en fait, j'ai les coordonnées de son ancienne curatelle.
Oui,
mais étant donné que son dossier a été transféré, je ne sais même pas à qui m'adresser là.
Oui, mais cette personne-là le connaît. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait...
L'ancienne curatelle?
Oui.
Oui.
Elle pourrait peut-être quand même vous parler de lui plus en détail. Peut-être éventuellement vous rassurer, le cas échéant. Ça me paraît une bonne idée d'entrer en contact avec elle.
Oui.
Ou alors avec que cette personne arrive à vous donner le téléphone de la nouvelle personne en charge.
Alors justement, c'est une question que je me posais. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce système de mandataire judiciaire.
Non, pas tellement. Non.
Je ne sais pas si justement cette personne, l'ancienne curatelle, à les coordonnées de la nouvelle.
À la limite, c'est même pas forcément indispensable. Ce qui est important, c'est qu'elle le connaît. Elle l'a suivi probablement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Alors apparemment, il a été mis sous curatelle il y a un an.
Au moins un an, elle le connaît, elle pourra peut-être répondre à vos questions. Et soit vous rassurer, soit vous mettre en alerte, je ne sais pas. Comment s'organise matériellement le partage de la maison entre lui et vous ?
Écoutez, c'est moi qui remplis le frigo.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez en commun et qu'est-ce que vous avez seul ?
En commun, moi, qu'est-ce que j'ai seul ? C'est moi qui ai toutes les factures.
C'est
une maison qui est meublée. On a chacun notre chambre.
D'accord, chacun votre chambre. Salon en commun, oui. Cuisine en commun ?
Oui, salle de bain et toilette.
Et salle de bain aussi, oui. Mmh. Donc ça fait beaucoup de choses en commun. Hein.
Oui, oui, oui.
Et j'imagine qu'il ne travaille pas ?
Non. Mmh. Non, les seules fois où il sort, en fait, il ne prend pas d'initiative. Par exemple, il reçoit des courriers en recommandé. Donc je suppose que ces fameux courriers, c'est par rapport à son... C'est une supposition, hein. Je suppose que c'est le nouveau juge des tutelles, c'est un courrier officiel comme quoi, voilà, son dossier est bien arrivé ici, avec la nomination, mais il ne va pas chercher ses recommandés. Il ne sort pas de la maison. Le peu de fois où il sort, c'est pour aller acheter de l'alcool et du tabac. Et ça dure 10 minutes l'aller-retour. Mmh.
La fois où il vous a menacé, c'était dans quel contexte ?
Par exemple, il me réveille et donc je lui fais la remarque qu'il me réveille et du coup, c'est de ma faute, c'est moi le méchant, c'est moi qui suis de mauvaise foi. Je l'entends quand il est au téléphone, il m'insulte. Donc, c'est ce que je disais à ma mère, c'est quand même compliqué. C'est compliqué parce que je fais comme si de rien n'était, mais je me fais quand même insulter sous mon propre toit.
Et quand vous lui en parlez à des moments où il est sobre, est-ce qu'il y a un dialogue possible ?
Alors, parfois, par exemple, cette semaine, à un moment, j'étais partie de la maison, je suis revenue, et lorsque je suis revenue, il m'a dit qu'il s'excusait, il m'a dit que ça ne devait pas être facile pour moi.
Ah.
Mais le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps.
Mais au moins, ça veut dire
que 10 minutes,
il est
10
lucide.
Minutes après, il a des moments de lucidité.
D'accord.
Mais ils sont très rares.
Bon, en tout cas, il ne vous a jamais touché.
Non.
Non, bon, c'est déjà ça. Est-ce que vous avez parlé de cette peur-là, de ces comportements au propriétaire ?
Non.
Pourquoi ?
Je sais pas, je me vois pas leur en parler.
Je trouve ça curieux parce qu'ils sont quand même aussi responsables. C'est eux qui louent. Ces gens-là louent leur maison à deux personnes. Ça veut dire aussi que si un jour il y a un véritable problème plus grave que ça, ils seront responsables.
En fait, ma mère m'a dit de ne pas, parce que moi il s'est absenté. C'est pour ça que je vous appelle ce soir, parce que je suis tranquille à la maison et que je peux vous parler en toute tranquillité. Et ce n'est pas le genre de personne à écouter Europe 1. Je suis assez tranquille à ce niveau-là.
Donc, on est tranquille ce soir, en tout cas.
Oui, tout à fait. Mais donc, j'en ai parlé à ma mère cet après-midi et j'ai dit, je profiterai bien du fait qu'il ne soit pas là pour au moins évoquer avec les propriétaires le fait qu'il ait émis le souhait de partir. Mais elle m'a déconseillé de le faire.
Et pourquoi ?
Comme quoi, parce que si par exemple, au mois de février, s'il ne pose pas son préavis, il peut dire mais qu'est-ce que t'as été raconté ?
Mais c'est curieux, c'est pas le fait qu'il veuille partir, moi, qui me semble important, c'est d'expliquer au propriétaire qu'il y a un problème. Ça me paraît. Ils louent leur maison, une partie de leur maison. À quelqu'un qui pose problème. Et vous êtes le colocataire, vous avez aussi des droits. Et ça me paraît sans menace, sans rien du tout, simplement leur dire, voilà, je ne suis pas bien, j'ai peur, vous me faites vivre avec quelqu'un qui me menace, qui n'est pas dans son état normal, qui probablement se drogue et boit. Parce que si un jour il y a un problème, ils vont tomber des nues, ces gens-là. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne leur en parlez pas de ça.
Parce que mes propriétaires, ce sont des personnes âgées qui, je suppose, pourraient être maladroites au moment où elles le verraient. Je pense qu'elles ne pourraient pas faire autrement que de l'évoquer. Et j'ai peur que ça se retourne contre moi.
D'accord, donc je comprends mieux le cheminement qui se fait dans votre esprit. En même temps...
Et c'est pour ça que j'ai les coordonnées de ses parents et je n'ose pas les appeler non plus parce que et c'est comme le fait d'appeler son ancienne curatelle. J'ai peur qu'ils l'apprennent.
Là, je ne pense pas parce qu'il y a une responsabilité quand même. C'est autre chose. Il n'y a pas de lien familial. Quelqu'un qui a sa charge ne va pas aller derrière répéter ce que vous lui avez dit. Vous pouvez lui expliquer en disant voilà, c'est un coup de fil complètement entre vous et moi, quoi. Maintenant, il émet l'hypothèse de s'en aller rapidement ?
Alors, il m'a dit qu'il aimerait partir dans le courant du mois de mars, donc il faudrait qu'il pose son préavis au mois de février, étant donné que c'est un appartement meublé et qu'il est reconnu adulte handicapé, c'est un mois de préavis. Mais vu comment ça se passe là, je ne vois pas... poser son préavis.
Mais il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire en quoi ça vous concerne sur le plan légal ? Parce qu'à partir du moment où il a un bail qui n'a aucun lien avec le vôtre...
Oui, mais c'est moi qui paye les factures. Par exemple, les factures d'électricité, c'est moi qui les paye. C'est à mon nom, j'ai donné mon RIB, c'est prélevé sur mon compte.
Il n'a jamais participé ?
Avant janvier... j'ai envoyé les factures à son ancienne curatelle, mais là, je ne sais même plus à qui m'adresser.
Alors justement, on a Ella qui très gentiment a envoyé un message pour nous dire qu'elle nous dit l'ancien curateur connaît forcément le nouveau vu qu'il lui transmet le dossier. Il y a une passation.
D'accord.
Elle nous dit aussi, au pire, le juge des tutelles le sait et ce colocataire est obligatoirement suivi. Elle nous dit aussi que vous pouvez vous tourner vers le préfet ou le maire si vous vous sentez en danger.
D'accord.
Merci Ella pour ce message et ces bons conseils.
Oui, merci beaucoup.
Mais effectivement, je pense que depuis le début, je pense que la première piste, c'est l'ancienne curatelle.
D'accord.
C'est vraiment quelqu'un qui, elle ou lui, je ne sais pas, je pense que c'est une femme d'après ce que j'ai compris.
Oui, c'est une femme.
Elle sera d'abord vous écouter en toute confidentialité, évidemment. Mm-hmm. Elle sera vous répondre en vous donnant des bons conseils par rapport à sa personnalité à lui. Maintenant... S'il s'en va, où est le souci ? J'ai bien compris que c'est une histoire de facture, mais il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera.
En fait, c'est parce que on va partir sur le. Ça va durer. On va imaginer qu'ils partent fin mars. Mm-hmm. C'est dans 2 mois et demi. 2 mois et demi, ça paraît court, mais lorsqu'on vit ce genre de choses, chaque jour compte. Et ça paraît, c'est très long. Et plus les jours passent, moins j'ai confiance et plus j'ai peur. J'ai peur, en fait, pour ma sécurité également. Il a des comportements qui sont complètement inadaptés, anormaux, et j'ai peur qu'à un moment ou à un autre, ça se retourne contre moi.
Mais donc, je ne comprends pas bien du coup, vous voulez qu'il parte, vous ? D'un côté, vous me dites, s'il part, je peux payer mes factures. Donc,
Non. Moi, je veux qu'il parte. D'accord. C'est juste là, je ne sais pas à qui m'adresser. Comme je vous dis, si ça doit durer encore 2 mois et demi, ça va être vraiment très, 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 très compliqué donc, à gérer pendant 2 mois et demi.
Effectivement, je pense que la première curatelle, c'est le premier contact à avoir tout de suite.
D'accord.
Comme vous dites,
ma mère m'a dit exactement la même chose cet après-midi.
Ensuite, le préfet de police et le maire pour leur signaler, simplement leur dire ce que vous me dites là. J'ai peur, je ne me sens pas en sécurité. Parce que vous savez, le jour où il y a un problème, on vous dira pourquoi vous n'avez pas prévenu avant. Donc le côté je ne dis rien à personne, je ne suis pas d'accord. Autant je peux comprendre, effectivement, vu les circonstances, que les propriétaires, s'ils sont des gens âgés, ça pourrait se retourner contre vous. S'ils sont maladroits, là je comprends tout à fait. Autant les gens qui ont une situation légale, le préfet, le maire, la curatelle, sont des gens qui sont là pour vous protéger, qui ne vont pas aller répéter quoi que ce soit. Ça me paraît important de leur en parler, vous voyez.
Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne contact avec l'ancienne curatelle.
Ça me semble déjà la première urgence, ouais, tout à fait.
Et que je lui dise dès le départ que cette conversation doit rester strictement confidentiel.
Exactement. Mais je pense que les gens qui ont quelqu'un d'autre sous curatelle sont quand même supposés responsables. Donc je pense que cette femme-là sait très bien que si vous l'appelez, c'est pas pour étaler ça sur le devant de la scène, vous voyez. C'est que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'être entendu. Vous avez besoin aussi qu'on sache que potentiellement vous ne vous sentez pas en sécurité. Et je pense que rien que le fait que des gens autour de vous le sachent, que ces gens-là le sachent pour vous, c'est important aussi.
Parce que, vous voyez, j'ai mis du temps à en parler, puis je ne sais pas à qui en parler. J'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Même là, j'ai du mal à expliquer la situation, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et j'en ai parlé à ma mère, donc, cet après-midi, et elle a... Je me suis mis en colère parce qu'elle me disait « Mais tu fais de la parano. » Et je l'ai très mal pris parce que non, ce n'est pas de la parano. Je lui ai dit « Tu ne le vis pas. »
Et oui. Et c'est une double peine en fait. Non seulement vous souffrez, mais vous n'êtes pas entendu dans votre souffrance.
Là, pour le coup, je ne me suis pas... Je me suis sentie vraiment incompris.
Voilà. Et je pense que dans l'intervalle qui va vous séparer du départ de ce colocataire... Ce serait peut-être bien, non pas de parler à maman, mais de parler à une psy.
D'accord.
D'avoir quelqu'un qui vous soutient. Pas une thérapie où vous vous allongez pour que parler, vraiment quelqu'un avec qui il y a un dialogue. Qui peut vous répondre, d'accord, vous conseiller, qui soit vraiment là pour vous. Et qui ne soit pas impliqué émotionnellement dans l'histoire non plus, vous voyez. Vous avez aussi besoin de ça, même si c'est très court. C'est pas une thérapie à entamer. C'est un soutien psychologique à demander pendant quelques semaines. Vous voyez. Quelqu'un chez qui vous pouvez vous lâcher... Une fois par semaine, parler de ça, expliquer ce qui se passe, qui peut vous écouter, vous répondre, et qui ne fera pas ce qu'a fait votre mère, parce qu'elle aussi est impliquée émotionnellement, et c'est probablement sa réaction, une façon de se rassurer elle-même, en fait.
Oui. Mais je pense.
Aussi, mais le problème, c'est que ce n'est pas un comportement adéquat à avoir avec vous. C'est compliqué pour elle et pour vous, donc ça serait plus intéressant d'aller parler à quelqu'un d'autre pour le moment.
D'accord.
Non, c'est aussi une manière de grandir en fait, par rapport à elle, à maman.
Là, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à couper le cordon.
Il me semble bien.
mais donc, en fait, la priorité, là, ce serait que j'appelle l'ancienne curatelle.
Oui, priorité numéro 1, l'ancienne curatelle.
Oui.
Parlez-lui, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Si ça vous paraît sensé, vous suivez ses conseils. Effectivement, le préfet de police et le maire, simplement pour signaler, en disant, voilà, je voudrais juste signaler que... Bah, vous savez que les maires ont des comment on appelle ça quand ils ont une journée de
permanence.
Voilà, de permanence ou de consultation, oui, c'est ça, merci. Vous demandez un rendez-vous simplement pour en parler. Juste une fois de plus, si jamais il y avait le moindre problème, qu'on ne vous dise pas, mais pourquoi vous n'avez jamais rien dit? Là, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas.
Non. Parce que je ne me vois pas, par exemple, c'est juste des... Comment dire c'est de la violence verbale. Il ne m'a jamais frappé ou menacé de me frapper.
Oui.
Et du coup, je ne me vois pas... parce qu'à un moment, je me suis dit, mais je pourrais porter plainte,
oui,
limite. Mais je ne peux pas.
Non, non, non. C'est pour ça que je vous dis en parler, simplement. Il ne s'agit pas de porter plainte pour l'instant, mais de signifier qu'il y a un souci. Il y a une tension,
d'accord,
avec quelqu'un qui est un peu borderline, même plus qu'un peu.
C'est ça. C'est totalement le mot. Il est borderline. C'est exactement ça.
Et puis, je pense surtout que vous, Vincent, vous avez besoin qu'on vous écoute et qu'on vous soutienne pendant cette période-là. Et comme maman n'arrive pas à le faire, ça serait vraiment bien de trouver ce soutien-là ailleurs.
Hein.
Juste histoire de franchir le pont. Après, ça ira mieux. Parce que bon, il y a 9 chances sur 10 que ça se passe bien. C'est un type qui n'est pas bien dans sa peau, qui vous a menacé sous l'emprise de la drogue ou l'alcool.
Mais en fait, moi, en fait, il n'a pas le même raisonnement que vous et moi. Il est dans son monde. Et en fait, c'est nous qui sommes les méchants. J'ai envie de dire les gens normaux, entre guillemets. C'est nous qui sommes les méchants. C'est nous qui avons, qui sommes à côté de la plaque.
Il est malade.
Nous qui travaillons.
Vous l'avez bien compris.
C'est ça.
Il est malade. Il souffre d'une pathologie psychiatrique.
C'est ça.
Il ne voit pas le monde du tout de la même manière.
C'est ça, tout à fait.
Donc moi, j'en suis pas certaine, mais je le vois pas s'en prendre à vous. Je pense pas que vous soyez en danger. Mais en tout cas, vous êtes mal. Vous êtes mal à l'aise, inquiet.
Oui.
Et il faut pas rester dans une situation comme ça, ça c'est sûr. Donc je récapitule. Petit 1, la curatelle.
Oui.
Petit 2, le maire. vous demander un rendez-vous pour aller en parler, simplement en parler. Et petit 3, trouver une thérapeute sympa qui vous accompagne pendant quelques semaines et qui vous aide aussi à prendre un peu vos distances par rapport à maman.
Hein
quelque chose me dit que ça vous fera le plus grand bien.
Mais ce sera... Je lui ferai savoir ce que vous venez de me dire.
Mais ça lui fera du bien à elle aussi.
Hein. Ah, certainement.
Vous gardez un lien d'amour, mais vous coupez le cordon quand même.
Ouais. Bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Sabine. Ça fait plaisir de sentir écoutée.
Et surtout, n'hésitez pas à me rappeler dans quelques temps pour me raconter un peu comment ça a évolué, tout ça.
D'accord. Très bien, mais je n'hésiterai pas.
Je vous embrasse, Vincent.
Vous également. Au revoir.
Et je prends maintenant l'appel de Jeanne. Bonsoir à vous, Jeanne.
Bonsoir. Sabine, je vous ai déjà appelé il y a quelque temps. Je suis infirmière à domicile dans Paris. Mm-hmm. Et je m'occupe toujours de personnes âgées et je visite des personnes âgées en maison de retraite. Mm-hmm. Et je voulais vous entretenir à propos de ça parce qu'il y a énormément de choses à faire avant d'entrer en maison de retraite et quelquefois on rentre en maison de retraite de façon urgente. Et là, j'ai assisté à des scènes absolument incroyables, des gens qui pensaient simplement faire une visite et qui se trouvaient restés et qui pleuraient, qui hurlaient, qui tapaient en disant « je dois repartir, ma maison m'attend », etc. Donc, on est dans ces situations entre 70 et 80 ans. Il faudrait penser que notre vie ne va pas continuer très, très loin. Donc, il faut penser déjà à élaguer, je dirais à élaguer, c'est-à-dire... On a toujours beaucoup de choses chez soi, des choses inutiles qui n'ont pas servi depuis des années, des souvenirs, des souvenirs et des souvenirs. Et à la fois, ça nous encombre l'esprit, ça encombre la famille. Et si on peut prendre la décision d'anticiper et de donner tout ce qui peut nous gêner, je m'en suis rendu compte aussi que chez les personnes âgées, il y a beaucoup, beaucoup de tapis. Et malheureusement, les tapis, ben, c'est bien, c'est beau, quelquefois des tapis très très jolis, mais on se prend les pieds dedans parce qu'on ne lève plus le pied pareil.
C'est même souvent chez les personnes âgées, c'est des tapis sur des tapis sur des tapis, c'est assez surprenant.
Exactement,
ça,
hein. Et on se prend les pieds dedans et on fait un col du fémur, ça va très très vite, donc prothèse de hanche. Donc c'est la vieillesse, il faut anticiper sur la vieillesse, j'avais déjà parlé un petit peu à ce sujet, et... il y a énormément de choix sur les EHPAD, etc. Et ce que l'on rencontre, bien sûr, lorsqu'on arrive, on est entre 80 ans et le grand âge maintenant, mais on se retrouve avec des jeunes femmes qui travaillent, qui n'ont pas du tout les mêmes priorités que nous. Nous avons un passé, nous avons une éducation, nous nous sommes construits et on trimballe avec nous tous nos souvenirs, ce qui est très bien. Mais à la fois, il faut savoir qu'on va vers autre chose. Et à un moment, il y a le moment de la rupture, c'est-à-dire au moment où on va accepter dans la maison de retraite. On y est et on accepte. Et là, on accepte un petit peu tout comme dans une routine, voilà. Une routine qui s'installe, une routine... Et là, on se sent bien, on retrouve des repères. Et là, il faut un temps pour s'adapter. Ça ne peut pas se faire en 3 mois.
Non, c'est un deuil aussi. Hein.
C'est un deuil. C'est un deuil avec le passé. Ça dépend aussi de ce que l'on a fait dans sa vie. Mais il faut se projeter vers l'avenir, toujours se projeter. Et là, j'ai eu un monsieur de 97 ans me disait qu'il était entré, il a fait un petit stage en maison de retraite et il pensait, parce que c'est un grand intellectuel, qu'il allait donner des conférences et parler de choses et d'autres à des gens. Et alors, il s'est rendu compte que c'était complètement autre chose. Donc, il est ressorti, il est rentré chez lui parce que... Bien qu'il ne puisse plus rien faire physiquement, il ne peut plus rien faire, mais il a une tête, il a une mémoire, etc. Donc, il ne se sentait pas à l'aise. Donc, il est toujours à la recherche d'une maison de retraite parce qu'il sait très bien que ça ne va pas durer des années. Mmh. Et tous ces petits problèmes-là qu'il faudrait pouvoir anticiper, c'est ça auquel je voudrais parler avec vous, de tout ce dont on a besoin de faire. Les expériences que j'ai eues, ce que j'ai vu dans Paris, par exemple, dans Paris, les gens qui sont au troisième étage, qui n'étaient pas descendus de chez eux depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce qu'il y avait un escalier à descendre, et les gens sont enfermés dans leur maison, et dans leur appartement. Et j'ai vu laver les cheveux sur l'évier de la cuisine, dans pas de salle de bain, même dans Paris, si vous voulez. Et c'est assez incroyable. En province, ça se passe un petit peu différemment, mais c'est toujours aussi pareil, parce que soit les gens sont complètement isolés, ils finissent pas très sales, puis d'un seul coup, les services sociaux se disent bah, il faudrait peut-être la placer quelque part, et là, on devient l'objet. Mmh. C'est-à-dire, on n'est plus une personne, on devient un objet que l'on va placer quelque part. Et là, ce sont des sentiments qui m'horripilent, qui m'agacent énormément, parce que à un moment donné, la personne n'est plus une personne et devient une chose. Et j'ai beau m'élever, enfin, je m'élève sur chaque personne, sur chaque auxiliaire que je rencontre, qui me parle de tel, un tel, un tel, un tel, et que ce n'est plus du tout une personne, c'est juste la chose. Ah, bah, la chose, elle comprend rien parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Alors qu'Alzheimer n'est pas, on comprend très, très bien. La personne vous comprend, vous suit, et il n'y a pas spécialement de démence. Simplement, la parole n'est plus là. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que je voulais vous entretenir. Mmh. Et je voulais dire aussi qu'il y a d'autres façons, il n'y a pas que des EHPAD, il y a aussi des gens qui reçoivent chez eux, comme les personnes qui ont des handicaps plus ou moins lourds, qui reçoivent chez eux à leur domicile parce qu'ils ont une chambre adaptée. Et là, vous avez un cadre familial. Et c'est plus rassurant, mais bien sûr, on n'est plus chez soi, mais c'est beaucoup plus rassurant. Et peut-être il y a des personnes qui voudraient recevoir des personnes âgées chez elles, mais il faut qu'elles aient une maison suffisamment grande, adaptée. Et là, il suffit d'aller dans les préfectures et vous demander, la personne demande un agrément. Et on donne, la famille qui veut accueillir des personnes âgées, c'est aussi comme des enfants aussi qui sont en difficulté. Il y a des familles d'accueil pour personnes âgées. Et là, il y a un salaire plus des frais d'entretien qui sont donnés chaque jour. Donc, il y a différentes possibilités. Il n'y a pas une possibilité.
Est-ce que vous avez des bons exemples de ça? Parce que ça peut faire un peu peur d'être dans une famille qui, on pourrait dire, ils font ça pour l'argent. Comment est-ce qu'ils vont nous traiter?
Non, parce que les gens, ils ont une formation. Avant d'avoir un agrément, il y a une formation.
Oui.
Donc,
c'est intéressant, ça, une formation, par exemple, qui consiste en quoi?
Du soin à la personne, du nursing, des petites choses, enfin beaucoup de choses comme ça. Du nursing, le savoir-être avec la personne. Donc ça peut rassurer. Donc il y a des gens qui passent leurs 5 ou 10 dernières années parce qu'ils n'ont pas de famille. Au lieu d'être dans une maison, dans un EHPAD, ils sont dans une famille d'accueil.
Et vous avez vu des situations bien se passer comme ça, positives?
Oui. J'ai des retours de gens qui sont très bien, ou la famille dit tout au moins qu'ils sont très bien et qu'ils sont. Et il y a d'autres, des gens aussi qui partent en vacances, qui se font remplacer par d'autres auxiliaires de vie, etc. Donc, puis c'est des petites unités. Quand vous avez 2 ou 3 personnes à vous occuper, vous avez le temps matériel. Et comme il y a une routine qui s'installe, le matin, le petit déjeuner, les soins de nursing, la douche, etc. La télévision, malheureusement, la télévision est très souvent présente. Ça, c'est la chose qui m'agace le plus. Mais ils sont dehors, ils sont dans la campagne, ils peuvent aller dans le jardin, ils peuvent s'occuper. Surtout, il y a des vieux agriculteurs qui ont été tout seuls, donc ils peuvent s'occuper d'aller donner à manger aux poules ou des petites choses comme ça.
C'est
donc,
plus humain que dans des grandes structures, évidemment.
Absolument, ouais. Absolument. Donc,
est-ce qu'il y en a assez des familles comme ça?
Non, il n'y en a pas assez. Je pense qu'il faut voir ça dans toutes les régions parce que chaque région, chaque préfecture donne un agrément. Donc, si je veux aller de la Normandie à la Bretagne dans un département d'Ille-et-Vilaine, et ensuite, ça sera un agrément d'Ille-et-Vilaine. Si je veux aller dans la Seine-Maritime, ça sera un agrément Seine-Maritime. Mais bien sûr, on tiendra compte de mon savoir-faire, de mon savoir-faire, voilà. Donc là aussi, il y a une autre chose. Je suis auxiliaire de vie. Je suis toute seule. J'ai pas de famille. Enfin, si j'ai de la famille, j'ai des enfants. Je suis disponible. Mais je travaille 4 ou 5 jours par semaine chez une personne qui est malade d'Alzheimer, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de descendance. Et je la fais vivre chez elle parce qu'elle a une maison qui le permet. Et j'irai le plus loin possible parce que le notaire m'a demandé de la garder la plus longtemps possible à la maison. Donc bon, bien sûr, ça veut dire... Mais financièrement, ça ne revient pas plus cher d'avoir une personne chez soi.
Alors c'est ce que j'allais vous demander justement. Combien ça coûte et qui paye ça du coup?
Alors là, cette personne, bon, elle est suffisamment fortunée et donc elle a... J'ai demandé la mise sous tutelle parce que je ne voulais pas m'occuper de cela. parce qu'elle n'a pas de, je disais, pas de, d'enfant. Donc la tutelle s'en occupe et pour le moment, c'est moi qui suis la référente. Et bon, il y a des jours où je reconnais que c'est très difficile, donc j'ai demandé que j'ai une coupure dans la journée. Il y a quelqu'un d'autre qui vient me remplacer 2 heures. 2 heures de temps en temps dans la journée pour que je puisse avoir une réelle coupure. Mais bon, j'ai fait avec cette dame, ça fait 4 ans que je la tiens et j'ai fait un travail cognitif avec elle, c'est-à-dire qu'elle a ses repères et son magasin. On est dans le magasin, elle choisit ce dont elle veut et bon, elle s'est sérieusement dégradée. Et ça fait 7 ou 8 ans qu'elle est malade et j'ai réussi à la maintenir et je la maintiendrai le plus longtemps possible.
Et comment ça se passe la nuit quand vous n'êtes pas là ?
Il y a une autre personne qui me remplace complètement, je prends des jours de congé par semaine, 2 ou 3 jours, il y a une personne qui me remplace totalement. Mais nous n'avons pas du tout la même...
Je vous parle de la nuit, les nuits.
La nuit, non, je suis là la nuit, je suis là 24 heures.
Ah d'accord, j'ai pas compris ça.
Je suis à demeure quelque part. Et en fin de compte, j'ai recherché des personnes pour faire un pool autour de moi. Il y a beaucoup de dames seules, voire des messieurs, qui sont prêts à accompagner les gens en fin de vie à demeure. Et aussi, les tarifs se négocient tout à fait. Donc, pour moi, la dame dont je m'occupe, je lui fais le repas, je prépare les repas. Nous sortons, nous allons au restaurant, je l'emmène au cinéma. Elle est très intéressée par le théâtre, donc de temps en temps, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Mais bon, c'est des petites choses de province, mais le fait de sortir, elle est très intéressée. Et aucune agressivité, beaucoup de douceur, mais il faut toujours que je la récupère, il faut toujours que je lui demande de me regarder dans les yeux pour lui parler et puis de la reconnecter en permanence. Et de cette façon-là, je peux la tenir éveillée. Oui, éveillée, c'est le cas de le dire, pour éviter de sombrer. Mais je sais quand les gens la mettent devant la télévision, elle déteste ça. Et donc là, elle replonge très, très facilement.
Mais ce qui me surprend un peu dans ce que vous me dites, Jeanne, c'est que vous me dites que ça ne coûte pas plus cher qu'une maison de retraite.
Non. Non.
J'avais l'impression quand même, peut-être comme beaucoup de gens, qu'avoir quelqu'un à domicile comme ça, c'était réservé à des gens un peu aisés, quoi.
Non, pas plus particulièrement. C'est entre, je vais vous donner les tarifs, c'est entre 100 et 150, 150 euros par jour. Et la maison de retraite, c'est 3 000 euros par mois minimum, entre 2 500 et 3 000. Donc, bien sûr, il faut rajouter les charges sociales aussi à cela. Mais je veux dire, exactement, pour 2 personnes qui sont là en permanence, ça fait 3 600 euros par mois de salaire, en plus les charges sociales. Mais dans Paris, j'ai vu des maisons de retraite à 5 000 euros.
Ah oui, c'est
5 000 euros, et puis voire
c'est
plus.
C'est exorbitant. C'est exorbitant, les prix des maisons de retraite.
Absolument. Et il y avait une lectrice qui venait voir une amie, elle avait été bibliothécaire à la BNF, et il y avait une personne qui venait lui faire la lecture, elle devait payer en plus, elle payait en plus le coiffeur, etc. Cette dame avait une très bonne retraite, mais c'est vrai que c'est excessif. Mais beaucoup, beaucoup de dames recherchent, qui sont seules ou qui ont eu des problèmes de vie ou quoi que ce soit, recherchent des postes à demeure. Je veux dire que j'ai passé beaucoup d'annonces et puis je m'intéresse énormément à cette situation de la personne vieillissante et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchaient à avoir ce genre de poste comme moi j'avais, ce que j'ai fait. Mais moi, c'était un choix volontaire, je veux dire.
Mais c'est intéressant ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'en fait, il y a d'autres options.
Bien sûr.
Et que c'est bien d'y penser aussi. Je suis en train de penser à quelque chose d'un peu différent, mais je suis tombée cette semaine sur un article que j'ai trouvé formidable. Je crois que c'est en Italie, où il y a un groupe de retraités, alors plus jeunes, mais qui anticipent l'avenir et qui ont décidé de racheter des villages abandonnés.
Vous avez vu ça ?
Pour retaper des maisons et vivre ensemble. Je trouve ça extraordinaire.
Absolument. Et on a, alors, je n'ai pas vu parce que j'en ai discuté la semaine dernière. J'étais en Espagne.
Ouais.
J'ai souri parce que j'étais avec une petite fille et puis elle m'a dit « je t'emmène dans un jardin ». Et en fin de compte, c'était un jardin, un playground pour personnes âgées. Et c'était très drôle parce que c'est elle qui me gardait, c'est ma petite fille de 14 ans. Et j'essayais tous les appareillages pour muscler les muscles, pour muscler les mollets, pour faire l'étirement des jambes, des bras, etc. Il y avait 5 ou 6 appareillages que pour les personnes âgées dans un petit village.
Il y a beaucoup d'initiatives là qui commencent à se mettre en place.
Ah oui, absolument. et aussi des choses de mouvement, enfin des volants pour coordonner les mouvements, etc. C'était très très intéressant. Et je les ai essayés tous. Et ma belle-fille me disait qu'il y avait un village justement où il n'y avait que des personnes âgées dans le sud de l'Espagne, où il y avait des aides-soignantes, enfin, qui vivaient avec eux et qui s'occupaient des gens. Et les gens, ils passent la plupart du temps dehors.
Là, de ce que j'ai lu, c'était des endroits qui sont désertés complètement, il n'y a plus rien.
Oui, ben là,
ils ont racheté, genre pour 140 000 euros, ils ont racheté un village complet,
oui.
retapé quelques maisons et décidé comme ça de vivre ensemble leur vieux jour.
Tout à fait. Il y a quelques années, nous avons fait la une un petit peu des magazines, il y a 8 ans. Il y a une association qui s'appelle Les Cocons. Et c'était, nous étions 5 personnes. Il y avait 2 médecins, 2 infirmières, une prof. Et nous avions acheté, un médecin avait acheté une grande maison et nous avons vécu ensemble à Nanterre pendant quelques temps. Donc il y a une association qui s'appelle Les Cocons et les personnes âgées partagent ça et vivent ensemble pendant quelques temps.
Jeanne, si vous le permettez, on va faire une courte pause.
Oui.
Je vous récupère de l'autre côté des infos. Il y a des questions qui arrivent pour vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans un tout petit instant juste après les informations,
oui,
d'accord
oui.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur la libre antenne d'Europe 1, il nous reste donc une petite heure à passer ensemble avant la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez prendre la parole tout au long de l'émission, prendre la parole pour parler de vous et de tout ce qui vous préoccupe. Un seul numéro de téléphone à composer, le 3921. Hassan et Oscar vous attendent avec beaucoup de bienveillance au standard d'Europe 1 et vous guident ensuite jusqu'à moi. Pour intervenir, réagir par SMS, je vous rappelle que c'est facile, vous faites le 739-21 et vous commencez par le mot « nuit ». Enfin, dernier moyen pour nous joindre, les mails, écrivez-nous à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. 3921 pour le téléphone, 739-21 en commençant par le mot nuit pour les SMS et libreantenne@europe1.fr pour les mails. Voilà, vous savez tout.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et je récupère Jeanne, vous êtes là Jeanne ?
Oui.
Alors,
absolument.
Juste avant les infos, vous commenciez à me parler d'une association que vous aviez créée.
Oui, non, je ne l'ai pas créée, c'était une autre personne qui l'avait créée, mais enfin auquel j'ai participé. Ça s'appelait Les Cocons. C'était un moment où les personnes âgées se regroupaient en groupe, se regroupaient en plusieurs et partageaient la même maison. Il y en avait il y avait un château dans le sud de la France qui a implosé un petit peu. Et puis cette maison que nous avions, enfin que ce médecin avait achetée et que nous partagions ensemble, ce qui était sympathique parce que nous faisions un petit peu, enfin on était sûr qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison, on avait la sécurité d'avoir du monde autour de nous.
Ouais. Il y a Anne qui envoie un message en disant ça existe en France, ce dont on parlait tout à l'heure, les villages groupés, ça s'appelle les béguinages. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Non, pas du tout. Je sais qu'il y a
bagayaya. Quelqu'un aussi envoyé un message en disant est-ce que c'est les bagayaya ? Qu'est-ce que c'est que ça alors ?
Alors, c'est un groupe de femmes âgées qui étaient lesbiennes qui ont habité ensemble, qui ont demandé une maison de retraite soit construite ou un HLM pour qu'elles vivent ensemble, qu'elles vivent leur vieillesse ensemble. Je crois que c'était à côté d'Aubervilliers ou Montreuil, les Bagayaya, c'était à Montreuil ou Aubervilliers, je crois.
Et donc les béguinages, vous me dites que c'est quoi ?
Les béguinages, je ne sais pas du tout exactement ce que c'est, mais ça doit être à peu près dans ce même ordre d'idées.
D'accord. On a aussi Thierry qui nous demande, il nous dit, est-ce qu'une personne seule peut accueillir des personnes âgées chez elle ?
Une personne seule, oui, à partir du moment où elle assure le quotidien, c'est-à-dire les soins de tout. Oui, absolument.
D'accord.
Il y a des choses qui peuvent se faire, il y a des agréments qui peuvent se faire, oui, tout à fait. Mais c'est mieux d'avoir un agrément préfecture. Tout peut se faire, hein, je veux dire, mais oui, tout peut se faire.
On n'est pas obligatoirement un couple, on n'est pas obligatoirement jeune.
Non, mais ça peut être deux personnes qui décident, mais il ne faut pas qu'il y ait non plus de dominance ou de l'un sur l'autre. C'est une question aussi de savoir-être, d'être dans l'esprit de la protection et non pas de soumission, dominance, etc. Et c'est parce que malheureusement, dès qu'une personne est un peu faible, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les discussions, c'est de partager du temps et de vivre normalement avec une personne qui est plus âgée. C'est difficile, il faut savoir se donner, il faut savoir partager. Et ça, il faut quand même une petite formation quand même. Mais c'est tout à fait possible si tout ça dépend de son environnement, où on peut la trouver, ça peut se trouver. Il y a des demandes, hein. En tout cas, il y a des demandes, j'en suis sûre. Tout est possible, tout est... Mais de façon légale, c'est via la préfecture, c'est le service, je ne sais plus lequel, enfin, au service de santé, parce qu'il y a un service santé dans toutes les préfectures, tout d'enregistrement. Il y a des groupements, alors, bon, que je connais parce que j'ai près de chez moi, j'ai un couvent, un ancien couvent, et les dames, entre 79 ou 75, la plus jeune a 75 ans et 104 ans. Alors ce sont des religieuses qui ont toujours vécu ensemble et elles font leur fin de vie. Alors leur rythme de vie est très très... il y a la messe le matin, à 7h du matin elles sont réveillées, ensuite elles ont un rythme de vie et elles sont aidées par des gens de l'extérieur, des laïcs, okay, qui viennent les aider pour préparer les repas, pour les soins, etc. Donc, mais la forme de la communauté existe toujours, ils ont des réunions de groupe, ils peuvent parler ensemble et ces gens-là sont absolument, ces femmes sont merveilleusement douces, elles sont bienveillantes. C'est absolument extraordinaire de les rencontrer parce que je veux dire qu'elles prennent soin l'une de l'autre. Bon, il se trouvait que je connaissais une religieuse, donc je lui apportais des chocolats. Elle me dit « Oh, ben, je vais partager avec mes sœurs. Oui. » Voilà, donc c'était presque pour une trentaine à vivre ensemble de cette façon. Oui. Et il y a beaucoup de religieuses. Donc je sais aussi qu'il y a des gens qui voudraient bien rejoindre des communautés religieuses parce qu'il y a cet état d'esprit.
Oui. Merci beaucoup en tout cas Jeanne pour votre appel et pour tous ces récits, tous ces témoignages. Voilà, c'était enrichissant.
Oui, c'est dans ce mais il faut prévoir, il faut anticiper sa vieillesse. Il faut vraiment l'anticiper. Et malheureusement, il y a trop de gens qui sont dans la souffrance de voir partir les siens. Puis il y a une autre chose aussi. On se prend pour des immortels. Beaucoup de gens se prennent pour des immortels. Et à un moment donné, bien, lorsque la personne est en fin de vie, il faut la laisser partir parce qu'elle a envie de partir.
Accepter ce qui est.
Comment ?
Accepter ce qui est.
Accepter ce qui est, oui, tout à fait. Et puis on s'éteint comme une bougie, petite bougie, et puis la flamme est vacillante et puis ça finit doucement. Et c'est de mettre de la paix autour des gens qui vont partir et accepter pour soi-même parce que c'est de toute manière, nous sommes conduits à cela et ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter parce que c'est la vie qui continue d'une autre forme, mais elle continuera.
Merci beaucoup Jeanne, merci beaucoup pour ce beau message. Je vous embrasse très très fort.
Au revoir, merci beaucoup, au revoir.
Bonsoir Solange.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Ah ben merci, c'est gentil de m'accueillir. Écoutez, j'entends depuis quelques soirs beaucoup, beaucoup de problèmes face aux personnes âgées. Je voulais vous dire, moi j'ai été famille d'accueil 20 ans pour personnes âgées ou adultes handicapées.
Oui.
Mais ma préférence était les personnes âgées. J'en avais deux. Ça a été 20 ans de bonheur.
Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous avez commencé ça ? Comment ça vous en est arrivé là ?
Avant, j'étais aide familiale à domicile, c'est-à-dire chez les jeunes couples.
Mmh.
Et c'est un métier, je n'en pouvais plus. Je trouvais ça très, très dur. Et je me suis trouvée en anniversaire avec une famille d'accueil. Il m'a dit, écoute, change de boulot, essaie ce que je fais, viens chez moi voir comment ça se passe et tu verras. Je suis allée chez elle voir comment ça se passait.
Mm-hmm.
Ma foi, au bout d'une demi-journée, on ne peut pas tellement voir, mais je dis, allez hop, je me lance, ne sachant pas du tout ce qu'était une personne âgée.
Donc d'abord l'agrément, j'imagine ?
Voilà, exactement. Alors on a des formations régulièrement, hein, régulièrement, très régulièrement, pour autour, disons, de la personne âgée ou de l'adulte handicapé. La façon de les porter, de faire la toilette, de faire plein de choses, tout autour d'elle.
Oui, Jeanne parlait tout à l'heure de nursering, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
D'accord,
c'est ça.
Je ne connaissais pas le terme.
Voilà, alors on doit faire d'abord ses preuves avec une personne pendant un an. Et puis alors là, ça a été vraiment, j'ai trouvé, alors je les ai toujours appelés mes petits vieux, mais en termes très très sympathiques, hein, très très sympathiques. Je les vous voyais, je les appelais par leur prénom. J'ai fait un an avec une première personne.
Alors, est-ce que c'est, pardon, j'aimerais juste comprendre le fonctionnement au départ. Est-ce que c'est quelqu'un que vous choisissez ou quoi, quelqu'un qu'on vous impose ?
Voilà. On nous appelle, on nous envoie dans les hôpitaux et on nous laisse choisir, disons.
D'accord.
On fait une visite à ces personnes qui sont prêtes à sortir de l'hôpital. Et puis, ma foi, on dit... alors, nous, on est suivis par le Conseil Général. Hein, c'est le Conseil Général, nous. Mmh. Et le Conseil Général nous dit... on leur dit, on prend ou on ne prend pas la personne. Donc, il faut essayer. Alors, moi, j'ai pris. Les premières personnes, c'était en hôpital psychiatrique. C'était de la démence, beaucoup. Mmh. Et j'ai pris une première personne qui n'a vécu, hélas, que 15 jours. Elle est décédée au bout de 15 jours.
Oh là là, oui.
Donc là, j'ai été très choquée parce que je me disais, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas.
Oh mon Dieu, oui.
Et le médecin, les infirmières, tout le monde est venu, ils m'ont dit, mais non, vous pouvez avoir une personne, et aujourd'hui elle est là, demain elle peut ne plus être là.
Et oui, est-ce qu'on vous prépare à ça d'ailleurs ?
Non, du tout, du tout. C'est pour ça que j'ai été très choquée pour la première. Et puis, j'étais sûre que ça venait de moi, que c'était moi qui avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, je m'en suis remise. Hein, et puis, je prends des personnes âgées. Donc, forcément, voilà. J'ai pris une deuxième. Je suis allée la chercher en hôpital psychiatrique. La dame était un peu démente. Et la deuxième, elle a vécu 3 ans à la maison. C'était, mais je vous jure, mais un pur bonheur. On a passé des journées entières à rire, à éclater de rire. Elle était géniale. Géniale. Alors, pour son Noël, en général, je lui offrais un petit chat en plus. Et c'était, mais vous auriez vu ses yeux, c'était, je peux même pas vous dire ce que c'était. Elle serrait son petit chat contre elle, elle l'enfermait dans son gilet pour qu'il n'ait pas froid. C'était génial, je n'ai que des bons souvenirs.
C'est merveilleux d'entendre des choses comme ça.
Oh, c'est magnifique, je vous jure, c'est magnifique. Et au bout d'un an et demi, je crois, j'ai pris une deuxième personne. Donc, elles ont chacun leur chambre, bien sûr, alors avec télé dans les chambres. Donc le matin, moi, il faut se lever tous les matins, quoi, hein, et puis de bonne heure, je servais les petits déjeuners à toutes les deux. Celle qui pouvait manger seule, elle mangeait seule, l'autre, je lui donnais. Et après, je passais aux toilettes. Alors les toilettes, c'était génial parce que je passais beaucoup, beaucoup de temps à faire les toilettes, à les masser, à les... Et j'étais avec elle, quoi, j'étais là pour elle, quoi. C'était vraiment, je vous jure, matin et soir, c'était très long mes toilettes, moi, parce que je faisais beaucoup de massages sur les points d'appui pour les personnes qui pouvaient plus se lever ou même des petits massages autrement, tout en chantant, en se racontant des histoires. Elles me racontaient leurs histoires de jeunesse, etc. C'était, je vous jure, génial. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai eu des personnes que j'avais choisies, mais qui ne correspondaient pas du tout. Donc qui étaient ou très agressives.
Ah voilà, comment ça se passe dans ces cas-là ?
Eh bien, dans ces cas-là, on essaie un peu. Puis si vraiment on ne peut pas, on rappelle le Conseil Général.
D'accord.
Et puis, ils cherchent une place, bien sûr, pour cette personne et qui de la maison. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles envahissent la famille, quoi.
Oui, c'est ça. Si ça pourrit ce qui a été construit avec douceur avant, c'est un gâchis.
Voilà, voilà. Mais bon, il y a des personnes aussi plus ou moins agréables, disons. Mais bon, sur 20 ans, je n'en ai eu que deux que j'ai dû me séparer. Donc, ils sont allés en EHPAD. Enfin, bon, elles sont allées, je sais pas où, parce que du jour où elles partent de la maison, moi, je ne m'en occupe plus.
Des tatis Daniel ?
Oui, un peu. Mmh. Tatis Daniel, un petit peu, oui. Ouais. Voilà. Mais sur 20 ans, je n'en ai eu que deux. Hein. Alors, j'ai essayé aussi de prendre des jeunes, c'est-à-dire des gens de mon âge. J'en ai eu un. Et ça a été le seul que j'ai pris, parce que c'était trop dur de le voir dans son fauteuil à bourbiter, voulant sortir et tout. C'était très, très dur. Non pas sur le point physique, mais sur le point moral. Oui. C'était très, très dur. Donc, je n'ai plus repris après que des personnes le plus possible en fin de vie, si vous voulez. C'était mon truc à moi, et pour la fin de vie, j'ai, entre guillemets, hein, j'ai adoré faire des fins de vie, m'occuper des fins de vie.
Qu'est-ce que ça vous a apporté humainement ?
Oh, ça m'apportait tous les jours. Tous les jours, j'étais heureuse dans mon travail, c'était même pas un travail. Je peux pas vous dire ce que ça m'a apporté. Ça me réchauffait le cœur, ça n'a jamais été une corvée de me lever le matin, parce que c'est 7 jours sur 7.
Et oui, et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade ou quelques jours absente?
J'ai eu des grippes, je mettais des masques. Donc je m'occupais d'elles, puis je les emmenais dans la salle avec moi, et puis je me reposais tout simplement. Hein. Mmh. Alors là, on était un peu plus effectivement devant la télé. Autrement, on est en campagne, donc en été, on mangeait dehors. J'avais les fauteuils roulants, donc on allait faire des balades dans notre campagne. Là, on avait goudronné notre grande cour pour les fauteuils roulants et tout ça. J'ai été obligée d'arrêter, sinon j'y serais toujours.
Pourquoi vous avez arrêté ?
Parce que voilà, mon mari s'est retrouvé en retraite et puis il a voulu vendre notre grande maison de plein pied. Et depuis, on habite une toute petite et depuis que j'ai arrêté, mais il me manque terrible, terrible, terrible. Donc aujourd'hui, je suis en retraite et je vais chercher à les revoir, je vais aller me promener dans les EHPAD ou je ne sais pas ce que je vais faire, mais il me manque de trop. Il me manque de trop, voilà, je ne peux pas vous dire, ça a été un bonheur, mais avec un grand B.
Solange, il y en a d'autres des comme vous sur cette terre ?
Il y en a, oui, il y en a, mais ça doit être une vocation, parce que moi j'ai eu tellement de mal à arrêter ce boulot. J'en ai fait une dépression parce qu'il me manquait tellement. Il y en a, oui, quelques-unes, mais c'est tellement prenant qu'il y en a qui commencent et qui s'arrêtent au bout de... Enfin, assez vite, disons. On est assez pris. Hein. Moi, je me plais beaucoup chez moi, donc c'était mon truc. Maintenant, quand vous partez en vacances ou quelque chose, chose que nous, on ne faisait pas, vous êtes obligé d'appeler quelqu'un pour vous remplacer, quoi, chez vous, quoi.
Oui.
Mais je vous jure que les familles d'accueil, si vous tombez dans une bonne famille d'accueil, eh ben, ils sont... Enfin, bon, je veux pas critiquer les EHPAD, hein, mais c'est vrai que j'entends des choses qui m'horripilent aujourd'hui, quelquefois. Ça me fait mal pour ces petits vieux là qui ont bossé toute leur vie et puis qui voilà.
Il y a le pire et le meilleur, mais c'est vrai que quand on vous entend, ça fait rêver. Hein.
Ah, ça fait. Ben, je vous jure que j'étais au paradis, hein, avec mes petites personnes âgées. Et on m'a critiqué, hein, parce que je voulais pas sortir, je voulais pas ci, je voulais pas ça. je voulais même pas les laisser à mes remplaçants quelquefois. Parce que quelquefois, vous êtes obligés malgré tout de quitter la maison. Mais j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Je ne pensais qu'à eux quand j'étais à l'extérieur. C'était...
Vous êtes incroyable, Solange. Et comment est-ce que vous appréhendez-vous votre vieillesse ?
Eh ben, peut-être autrement. Mais pourquoi pas une famille d'accueil ? Pourquoi pas ?
Mais oui, j'imagine que pourquoi quand on a vécu ça, on aura envie d'avoir de le vivre à son tour de l'autre côté, quoi.
Voilà, ouais. Voilà. Alors,
Oui, dites-moi.
On est très suivi par le Conseil Général quand même. S'il y a un petit problème, une petite chose qui ne va pas, on les appelle, ils arrivent. Et on en discute. Et puis voilà, et les formations, c'est pareil. Il y en a toujours, hein, parce que de temps en temps, on en avait une formation d'une petite semaine. Voilà.
Alors dites-moi, Solange, vous qui avez une magnifique expérience dans ce domaine-là, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se demandent quel conseil vous pourriez donner pour choisir une bonne famille d'accueil pour quelqu'un de sa famille ?
Eh bien, je ne peux pas vous dire.
C'est au feeling ?
Je ne peux pas vous dire parce qu'il y en a évidemment, comme dans tous les métiers, qui vont le faire pour le salaire. Alors que le salaire n'est pas très élevé en lui-même. Mmh. On a le salaire plus les frais d'entretien, quoi.
Ça revient à combien à peu près ?
Enfin, ça dépend du gire de la personne, ça dépend de sa dépendance.
D'accord, mais en moyenne ?
Moi, j'avais un salaire de 1200, 1300 euros.
D'accord.
Voilà. Mais ça dépend de la dépendance de la personne. Et cette personne, elle a le droit à toutes les allocations qu'elle avait avant, bien sûr. Ils ont déjà une prise en charge pour le loyer de la chambre. Toutes nos grilles de salaire étaient fixées par le Conseil Général, nous. Ce n'était pas nous qui faisions le salaire.
D'accord. Mais pour en venir voilà. à conseils pour quelqu'un qui souhaiterait trouver une bonne famille d'accueil, ce n'est pas évident, en fait.
Ce n'est pas évident, parce que vous en avez des bonnes et puis vous en avez d'autres qui... Bon, ils vont s'en occuper, bien sûr, mais peut-être moins, je ne sais pas. Mais en général, les familles d'accueil sont bien, hein, parce qu'ils sont là, donc on joue avec eux, on fait des jeux, on sort, disons. Moi, je prenais des personnes âgées souvent en fin de vie, donc forcément moins valides que des plus jeunes, quoi. Mais plus je les prenais âgées, et mieux ça me convenait. Parce que j'aimais beaucoup rester avec elle aussi quand je les voyais partir. Oui. Alors au départ, je passais ma nuit avec elle, je leur donnais la main. Les personnes qui étaient croyantes, eh ben, on disait des prières ensemble. Oui. Et puis, parce que moi je suis croyante aussi. Après, l'infirmière me disait, ben, il ne faut pas rester toute la nuit avec elle. C'est à elle de choisir si elle veut quelqu'un ou personne. Mmh. Donc, eh ben, après, je restais jusqu'à minuit, une heure, et j'allais me coucher. Puis, voilà, il se pouvait que le lendemain matin, eh ben, elle ne soit plus là.
Mais ça se faisait en douceur. Mmh. En douceur et dans un grand respect, en tout cas, de ce que j'entends.
Ah, dans un grand respect. On leur devait ce respect. C'était vraiment... Mais toujours avec une main sur elle, sur leur main ou sur leur bras, et pour qu'elle ne se sente pas seule, pour qu'elle puisse partir dans la sérénité, dans le... Voilà.
Solange, vous êtes remplie d'humanité, ça fait vraiment du bien.
Je pense que oui, mais je vous jure que avant ces 20 ans-là, j'ai fait 20 ans aussi de travailleuse familiale, et je regrette de ne pas avoir connu ce métier plus vite. Parce que j'aurais aimé le faire pendant 40 ans et ça ne m'aurait pas dérangé de faire 20 ans de plus. Non, je vous jure que... Et je vous entends depuis quelques soirs en parler, et puis ça me démangeait, mais bon, je disais... J'attendais, peut-être qu'une famille d'accueil va appeler. Mais bon... Personne ne fait, donc...
Mais vous avez bien fait.
il faut se lever le lendemain matin, donc c'est un peu tard aussi pour les familles d'accueil.
En tout cas, vous avez drôlement bien fait d'appeler. Et vraiment, moi, je vous souhaite un jour, si vous cherchez une famille d'accueil, de trouver une Solange Bis pour vous accueillir. Vraiment.
Eh bien, j'espère, hein, j'espère. Voilà, Sabine.
Merci infiniment, Solange.
Je vous remercie, je vous remercie. Bonne soirée à vous, merci.
Et c'est Manuel que j'accueille maintenant. Bonsoir, Manuel.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Bonne année, bonne santé à vous, à tout le monde.
Merci.
Moi, c'est un cas un peu exceptionnel. Enfin, c'est-à-dire, j'ai rencontré il y a quelques mois une femme à l'église, parce que tout se passe sur le plan spirituel. C'est comme ça. Je la vois que toutes les deux semaines en moyenne. Geneviève, là, je la vois que toutes les deux semaines. On se voit une demi-heure. On ne peut pas plus se voir. C'est vrai que j'ai un manque. Ça me fait mal, mais d'un autre côté, c'est un bel amour. C'est déjà une grande amitié qui n'a pas les complications pour l'instant, enfin, d'autres choses, quoi. Mais je veux dire, mais il y a quand même un manque. Et puis, c'est pour ça que j'espère avoir des femmes confidentes qui peuvent m'aider sur ce chemin-là. Mais je ne sais pas, en tout cas, avec elle, on ne se voit pas souvent. Alors, elle est réfugiée dans son grenier, dans sa famille. Je veux dire, elle dit « je ne peux pas déménager, je ne peux pas me marier avec toi parce que j'ai peur, je ne suis pas capable, je suis handicapée. » C'est ça. Sinon, tout va bien. On s'embrasse, on voit qu'elle a un regard qu'elle aime beaucoup, énormément. Elle prie pour moi beaucoup, le chapelet, tout ça, plein de choses. Enfin, on s'aime bien, mais ça reste sur un plan surtout amitié et spirituel.
Comment est-ce que vous l'avez rencontrée ?
À l'église,
mais
de Nyons.
Comment vous l'avez abordée ?
Parce que je l'avais vue dans la rue, je me suis dit elle est étrange, pas comme les autres. Puis j'ai fini par savoir qu'elle allait à l'église tel jour. Et puis je suis rentré dans l'église, puis j'allais lui demander son prénom. Et puis, comme si le bon Dieu le voulait, enfin je sais pas, elle m'a demandé mon prénom avant que je lui demande. Alors ça a été merveilleux. Et puis c'est là qu'on s'est rencontrés, quoi. Mais
vous avez dit qu'elle a un handicap. Qu'est-ce que c'est comme handicap ?
Oh, un handicap psychologique, comme tous ceux qui vont au CMP ou des choses comme ça. Enfin, moi, j'y vais aussi, mais je veux dire, je me sens pas trop handicapé. Mais bon, ils m'ont fiché handicapé. Moi, bon, peu importe. C'est pas. J'ai mon potentiel quand même psychologique. Je pense que. Enfin, bon. De toute façon, les docteurs vous trouvent toujours quelque chose. Hein, c'est pas. Pour eux, il y a toujours un peu quelque chose.
Donc, mais elle va pas si mal que ça, alors.
Oh, non, mais elle est très ralentie par les médicaments, mais elle est lumineuse, quoi. C'est-à-dire, elle est très intelligente, tout ça, elle parle lentement, doucement. Mais bon, elle est très éveillée, ça n'empêche pas. Mais
elle vous plaît, en tout cas, visiblement.
Oui, 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 beaucoup, oui, parce que elle est plus sensible, même quand je l'effleure un peu, que j'essaye de faire un peu plus, c'est-à-dire lui caresser les bras quand elle s'en va, l'embrasser un peu plus fortement. On voit qu'elle tremble un peu, enfin, elle a l'air d'être contente. Elle me regarde après d'un grand sourire. Au revoir, à mardi prochain.
Oui, alors, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, alors, Manuel, cette rencontre ?
Ça m'apporte un réconfort, parce que je sais qu'elle prie pour moi, qu'elle pense à moi, que je pense à elle. Mmh. Il y a des ondes, il y a toujours quelque chose qui se passe. Normalement, on n'est presque jamais seul. Quand on arrive à avoir un lien comme ça, surtout spirituel, ça aide. Ça va bien. J'aimerais qu'on se voit plus souvent, qu'elle habite même dans ma ville. Elle est à 30 km, enfin, dans sa famille. Alors, avec ses sœurs, des fois, je tombe sur sa sœur au téléphone qui veut presque me draguer. Ben, j'aimerais bien te connaître, te voir, parce que je parlerai des heures avec toi. Elle me dit, enfin bon, ça ne m'empêche pas que je lui parle au téléphone à Geneviève aussi, hein, mais.
Enfin. Et votre amie a quel âge ?
57 et moi 55.
Mais comment se fait-il qu'elle soit encore chez ses parents alors ?
Ah, bah. Ça. Elle est un peu paysanne sur les bords, je pense, quelque part. Donc, ils sont dans une ancienne ferme. Il y a la maman, la sœur et le frère qui s'entend pas trop avec les filles, mais il y a sa sœur et puis elle est au grenier. Et puis sa sœur me dit, je sais pas trop ce qu'elle fait, elle reste dans son grenier, elle dit que c'est son refuge. Elle prie beaucoup, de toute façon elle passe beaucoup de temps à prier le chapelet pour la paix dans le monde. C'est une très bonne action, hein, c'est très beau. Mais voilà, c'est évidemment, ça fait un peu mal me dire qu'elle est comme ça loin et puis qu'elle est dans sa famille, quoi. Mais
donc pour l'instant, vous ne la voyez qu'une seule fois par semaine?
Oui. Mm. Des fois, toutes les deux semaines, ça dépend si elle va voir l'infirmière ou le CMP. Bon, elle me dit, dans deux semaines, on se verra. Sabine, tu sais, vous savez, oui, je vous tutoie maintenant. C'est un peu spécial, moi, ce que je vis. C'est pas tout le monde qui vit ça vraiment, mais bon, moi je suis un homme, c'est vrai, je ne pense pas à la chose du point de vue chair forcément. Il y a d'autres choses en plus qui sont formidables. Donc, c'est vrai que pour l'instant ça va, mais j'aimerais que, au moins qu'elle soit plus proche déjà. Que, ah.
Mais ça fait, c'est tout récent, peut-être qu'il lui faut du temps.
Hmm. Ça fait 6 mois, hein, ça fait 8, 10, ça fait presque un an maintenant.
Ah oui. Ah oui. Mmh, oui. Oui, mais je crois que vous êtes sensibles l'un et l'autre.
Oh oui, je pense. Donc, il ne faut pas brusquer les choses.
Vous
oui,
avez
voilà.
une belle fragilité, en même temps, une fragilité qui vous rend lumineux tous les deux. Mais c'est vrai qu'il faut y aller doucement.
Oui, il faut y aller doucement. Mmh. Puis on est réceptif, puis on reçoit. Je suis heureux, quoi. Je suis content. Quelque part, mais je peux lui téléphoner qu'à 13h30, sinon après, sa maman fait la sieste, puis le soir, ou alors vers 19h. Mais voilà.
Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment, là, Manuel, maintenant?
Je sais pas si des femmes aussi on vivent des choses un peu comme ça, c'est-à-dire un peu des choses belles, mais qui ne savent pas où elles en sont, qu'elles soient un peu mes confidentes, mais me mettent sur le chemin du véritable amour, ou alors de dire comment procéder pour qu'elles puissent s'approcher de moi. Ou, je ne sais pas trop comment faire.
Vous avez besoin d'être rassurée.
Ah, je me demande, ouais, consoler, rassurer.
Donc si on a des âmes maternelles qui nous écoutent,
oui, oui, ça me ferait beaucoup de bien,
et
oui.
Qui aimeraient vous prendre un petit peu dans leurs bras à distance, j'entends, hein, mais
oui,
moralement,
Sabine, bien sûr. Oui.
Je sais, Manuel, oui. Que vous avez besoin de ça.
Ah, c'est gentil, Sabine. Ouais, parce que je suis très ému, même quand par exemple j'ai une lettre de Geneviève, depuis même un an, ça, c'est comme si c'était le premier jour. Je suis ému presque aux larmes des fois. Enfin, je suis ému, enfin, je suis touché. Quoi.
Vous êtes à fleur de peau.
Oui, je pense. Ouais.
Bah, écoutez, on va relancer un appel ce soir. S'il y a parmi vous qui nous écoutez des femmes qui se sentent une âme de maman, et si vous avez envie de rassurer Manuel, de lui parler, d'entrer en contact avec lui, n'hésitez surtout pas.
Ouais. Oui, c'est gentil.
J'espère qu'on aura plein de contacts pour vous, Manuel. Et puis, surtout, prenez le temps avec cette jeune fille.
Il faut respirer un bon coup et puis dire les choses vont se faire dans le temps.
Exactement.
Voilà.
Je vous embrasse très, très fort, Manuel.
Je vous embrasse, Sabine. Très, très fort. Au revoir.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et c'est Momo que j'accueille maintenant. Bonsoir, Momo.
Bonsoir.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je suis ravie de pouvoir vous accueillir sur cette libre antenne ce soir.
Écoutez, je suis le plus ravi, c'est moi, parce que je ne pensais pas passer à votre antenne.
Alors dites-moi, pour quelle raison vous m'appelez ce soir?
En fait, je vous appelle par rapport à... Moi, j'ai 42 ans. Mmh. J'ai été devenu un petit canard de la famille, quoi. J'avais mon père qui me tapait dessus, mais qui était alcoolique, quoi. Il avait la bouteille, voilà.
Combien d'enfants étiez-vous?
On était 10.
Et pourquoi c'était vous, le vilain petit canard?
Voilà, c'est une grande question. J'ai toujours cherché à savoir pourquoi, dans mon entourage familial, par rapport à ma mère, mm-hmm. à mes grands frères et sœurs, parce que je suis une fratrie de 10 enfants, et je suis le 8e, en fait.
Oui.
Je suis le 8e et j'en ai beaucoup voulu à mes grands frères et sœurs de ne pas avoir intervenu, quoi.
Pas avoir pris votre défense.
Quand ils s'en prenaient à moi. Et en fait, l'objet de mon appel, c'est en fait là, c'était les périodes de Noël. Et j'ai toujours, j'ai des périodes où j'ai toujours ces souvenirs, ces scènes de violence qui me reviennent. Voilà, alors j'aurais voulu avoir votre avis pour aller de l'avant et ne plus rester sur, sur ces périodes un peu douloureuses, quoi.
Vous aviez quel âge quand votre père vous tapait dessus?
Ça a commencé à peu près à l'âge de 6 ans. Mmh. J'avais 6 ans et...
Ça va aller, Momo. Laissez la parole se libérer, ça fait du bien d'en parler.
Merci. Voilà, ça a commencé à partir de l'âge de 6 ans.
Et vous étiez vraiment, sur les 10 enfants, le seul à prendre des coups?
Oui, j'étais le seul. Et puis, parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas remarqué, en fait. Je l'ai remarqué quand je suis parti... Quand je suis parti du cocon familial, en fait. Mmh. Et c'est là que ça a été dur pour moi. C'est là que j'ai eu vraiment une claque dans la figure, entre guillemets, parce que je me suis dit, excusez-moi du terme, mais je me suis dit, merde, mais ce que j'ai vécu, c'était pas normal, quoi. Mmh. Voilà, sur le fait, quand j'étais enfant, quand j'ai subi ça, pour moi, c'était toujours normal, puisque j'ai toujours vécu avec ça, vous comprenez?
Mais vous vous rendiez compte quand même que les autres ne subissaient pas le même traitement? Ou pas du tout?
Je me rendais compte, mais à force, c'est devenu une banalité.
C'est,
même
c'est
pour
comme
moi.
Ça, quoi, voilà.
Ouais. Voilà. Et j'ai fait l'irréparable, en fait. Parce qu'il me tapait, le pire, c'est que mon père, je l'aimais, quoi, en fait. Voilà, un enfant aime toujours ses parents, quoi. Et le pire, c'est qu'il continuait jusqu'à quand j'étais adulte, il continuait encore. Et il arrivait un moment où j'ai vu rouge, quoi, et ça a été l'inverse, quoi. Et c'est ça que j'arrive pas à me pardonner.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait?
C'est de moi de lui avoir tapé dessus, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça que j'arrive pas à me pardonner. Et par là, après, mes frères et sœurs m'ont sorti de la maison et puis ils m'ont foutu dehors, quoi. J'ai dormi dans la rue. J'ai été hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence pendant un an, voilà. Ça a été très compliqué pour moi. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à me dire... ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai pardonné, quoi, en fait. J'ai pardonné, mais j'ai toujours des périodes des périodes où j'ai des coups de mou et je pense qu'à ça, en fait.
Vous avez quel âge aujourd'hui, Momo?
Je suis né 23/12/78, j'ai 42 ans.
Oui, donc ça fait très longtemps que c'est arrivé.
Oui, ça fait très longtemps.
Est-ce
exactement.
Que vous avez réussi à construire votre vie d'homme après?
Non.
Pas de femme, non. Pas d'enfant?
Non. J'ai... C'est très compliqué, mais bon, comme... J'ai accepté de passer à l'antenne, je vais me livrer, quoi, et je vais pas me... Si quelqu'un qui peut se reconnaître, qui écoute Europe 1, si ça peut aider quelqu'un, je vais me livrer. En fait, j'ai subi aussi des choses un peu pas bien par rapport à l'une de mes sœurs quand j'étais gosse, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer par téléphone. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me facilite.
Est-ce que vous parlez d'attouchement?
Ouais, un peu plus même. Ouais, un peu plus.
Mais c'est-à-dire que vous l'avez subi?
Oui.
Donc c'est de la part d'une de vos sœurs, c'est ce que vous me dites?
Oui.
D'accord.
Et c'est très compliqué parce que je n'en veux pas, en fait. Je ne lui en veux pas du tout.
Et pourquoi vous n'en voulez pas?
Parce que ça fait fait partie du contexte familial, vous voyez, avec un père alcoolique. Vous voyez ce que je veux dire?
Non. Alors là, maman, je vois pas pourquoi, parce que papa est alcoolique, votre sœur se permettrait ça.
Oui, mais c'est peut-être une façon à moi de ne plus... Parce qu'en fait, il y a un moment donné où j'ai vraiment limite haï ma famille, en fait.
Mm-hmm.
Et c'est en pardonnant que j'ai réussi à remonter la pente, en fait.
Alors, pourquoi pas, mais de ce que j'entends un petit peu, j'ai l'impression que vous pardonnez à tout le monde, sauf à vous-même. Vous me dites, je m'en veux encore d'avoir levé la main sur mon père, comme si lui avait eu le droit, mais pas vous.
Ouais, vous avez raison. Ouais, mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. C'est...
Alors, ça fait plus de 30 ans que c'est arrivé. Est-ce qu'en 30 ans, vous avez travaillé avec un thérapeute? Est-ce que vous êtes fait accompagner pour ces deux traumatismes-là?
Oui. Parce qu'en fait, c'est, comme j'ai été dans un centre d'hébergement d'urgence, c'était des CMP, quoi, en fait. Hein.
Mm-hmm.
Les CMP, c'était gratuit. Et puis. Et ce qui me dérangeait, c'est que je ne voyais pas le bout, en fait. Je ne voyais pas le bout du tunnel, c'était toujours pareil, quoi. Et il y en a un qui a essayé, j'ai même vu un psychiatre, mais ça, j'ai refusé parce qu'en fait, j'estime que je ne suis pas fou. Et,
Alors, attendez, on ne voit pas un psychiatre parce qu'on est fou. Hein.
Ouais.
On voit un psychiatre pour faire une thérapie et parler de ce qui nous fait du mal. Ça n'a rien à voir avec la folie, ça.
Ouais. Ouais, peut-être que je me trompe, mais j'avais toujours cette hantise de...
D'être pris pour un fou.
Ben, voilà. Mmh. Et d'être... voilà, d'être... Et d'être...
Interné d'office.
Voilà. Mmh. Et voilà, c'était ça ma crainte. Et, c'est vrai que je suis conscient, il y a beaucoup de psychologues que j'ai parlé, ils m'ont dit que... ils m'ont dit qu'ils ont l'impression que moi, j'ai fait mon auto-analyse tout seul, mais que je n'arrive pas à me pardonner ben, ce que vous venez de dire.
Mais oui. Comment vous êtes arrivé à ce pardon pour les autres?
En fait, c'était un cercle vicieux. En fait, je me faisais du... En leur voulant... je veux dire, en les haïssant de ce que j'ai subi quand j'étais gosse.
C'est à vous que vous faisiez du mal, oui.
Voilà, c'était un cercle vicieux et j'étais un peu maso, ouais. Bon, c'est comme ça qu'on dit, ouais.
Mm-hmm.
Ouais, j'étais maso, je me faisais du mal volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Mais c'est aussi, y a un psychologue qui m'a dit aussi. Vous avez l'habitude de prendre des coups et quand ça s'est arrêté, après je sais pas si c'est vrai, il me disait que quand j'ai eu l'habitude de me faire battre et puis quand ça s'est arrêté, eh ben, ça me manquait. Et après moi je l'ai pas cru, sur le coup je l'ai pas cru et quelques années après je me suis dit qu'il avait peut-être pas tort.
Alors c'est un raccourci, c'est pas aussi simple que ça, mais en fait on se construit dans un schéma particulier. Avec des repères, en l'occurrence des repères de violence. Et quand ça s'arrête, c'est pas que ça manque, c'est qu'on n'a plus les mêmes repères. C'est comme si on tombait du ring d'un seul coup, quoi. On s'est construit en se battant. On sait se battre, mais quand il n'y a plus rien, on est un peu perdu. Oui, ça vous dit quelque chose?
Oui. Oui, c'est pour ça que j'ai un peu...
Quand le combat s'arrête, on est perdu parce qu'on s'est construit sur ça, en fait. Vous avez appris à vous défendre et à vous protéger le plus possible des coups, des agressions. Et c'est vrai que quand ça s'arrête, il peut y avoir une sorte de vide et de perte de repères.
Ouais, Mais excusez-moi, si j'ai des fois j'ai des blancs, c'est que je me retiens, en fait. Excusez-moi, là je ris. Je ris pour pas... voilà. En fait, si j'ai des blancs comme ça, excusez-moi, c'est que je passe peut-être pour quelqu'un qui est inaudible par rapport rapport à vos auditeurs.
Non, vous inquiétez pas pour ça.
Mais je me retiens pour pas, parce que j'ai des émotions qui reviennent, en fait.
J'entends ça. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'EMDR ? La thérapie par les mouvements oculaires ? Parce que je pense qu'il y a des grands traumatismes chez vous qui, 30 ans plus tard, sont en train de refaire surface. Renseignez-vous pour trouver un thérapeute qui pratique le EMDR, thérapie par les mouvements des yeux.
D'accord, hein, je suis en train de noter là.
Ça peut vous aider parce que là, il y a vraiment un traumatisme qui est encore à fleur de peau.
EMDR, ouais. D'accord.
Là, pour vous, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une thérapie d'urgence et qui fonctionne assez rapidement. Parce que je ne vous vois pas repartir pour parler pendant des années de ce qui s'est passé. Je crois que ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout d'un nettoyage, là, de laisser ça derrière vous.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous êtes tombé dans le mille. Ben merci. C'est exactement ça. Hein.
Ouais.
C'est exactement mon ressenti aussi.
Vous avez déjà fait un grand chemin en comprenant que tant qu'on ne pardonne pas, en fait, c'est à soi qu'on fait du mal. Ce n'est pas à la personne à qui on en veut. Donc ça, c'est déjà bien, mais il y a encore un petit bout de chemin à faire qui va vous libérer complètement de tout ça. Et je pense vraiment qu'une thérapie à base de mouvements oculaires, c'est quelque chose qui aide à faire un grand nettoyage mental.
Ouais, j'en parlerai. Parce que là, je vous rencontre une psychologue parce que je ne vous ai pas tout dit. Parce qu'en fait, voilà, mais je pense qu'à ce moment-ci, dans ma région, il n'y a pas beaucoup de monde qui... Moi, j'espère que vous avez une grande audience, quoi. Hein, Europe, c'est pas ça. Mais en fait, ma crainte, c'est qu'il y a des personnes que je connais qui écoutent la radio. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est moi qui ai appelé, vous ne m'avez pas forcé. Il n'y a pas de souci. C'est que, en fait, je suis séropositif.
D'accord. Voilà. Alors, Momo, ce qu'on va faire, parce que là, l'émission se termine et que vous soulevez d'un seul coup beaucoup de sujets très importants.
Ouais, ouais,
exactement. Si vous le voulez bien, vendredi prochain, on reprend cette conversation quand je reviens.
Il n'y a pas de problème.
Si vous êtes d'accord, on garde votre numéro et on vous rappelle en priorité vendredi prochain.
Merci, c'est gentil.
Et on aborde tous ces sujets parce que tout ça sont des sujets graves et profonds et on ne peut pas en parler comme ça en 35 secondes. Non. Si vous avez vraiment envie d'en parler, si vous avez vraiment besoin de conseils, si vous avez besoin de vous confier, on reprend cette conversation tous les deux à partir de vendredi prochain.
Ben, je vous remercie infiniment, c'est gentil.
Hein, on fait comme ça. Et d'ici là, renseignez-vous quand même pour trouver un thérapeute qui pratique l'EMDR.
L'EMDR, oui.
D'accord, Momo ?
J'ai noté. Merci beaucoup.
À vendredi prochain.
Merci, au revoir.
Je vous embrasse. Et oui, le temps passe vite. Notre libre antenne pour ce soir, c'est fini. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouvez à partir de 22h30. Quant à moi, j'aurai le plaisir de revenir vendredi prochain pour de nouveaux échanges, pour de nouvelles confidences. Et je vous quitte avec cette citation. Ce n'est pas la volonté qui mène au but, mais c'est le but qui donne la volonté. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous récupère vendredi prochain.